Bonjour à tous et bienvenue dans De Bouche à Oreille, l'émission dans laquelle on parle des initiatives agricoles et citoyennes en Touraine. Cette émission est réalisée en partenariat avec Impact 37 et je suis en compagnie de Julie Joyer, sa chargée de communication, pour animer cette émission. Bonjour Julie.
Bonjour Audrey.
Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cédric Sassier, éleveur de poules pondeuses au sein de la ferme dans le panier, située à Lusillet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Pas de problème, merci beaucoup.
Alors, la ferme dans le panier, c'est une exploitation de plants et de légumes, une activité mise en place par votre femme en 2012.
C'est exactement ça, activité qui s'est créée à la suite d'une reconversion professionnelle pour ma femme, qui était à la base fonctionnaire, elle était bibliothécaire exactement, donc elle a complètement changé de bord et l'envie était de s'installer. Donc en 2012, on a franchi le pas, une maison qu'on a achetée en 2010 avec de la terre bien sûr. Et cette activité, on l'a développée un petit peu quand moi je suis rentré sur l'exploitation. Donc on a créé le GAEC en 2020, exactement, 1er novembre.
Et donc vous, à partir de quel moment est-ce que vous avez eu aussi envie peut-être de l'aider ou de développer votre activité ?
Depuis le départ, depuis son idée d'installation qui est née avant qu'on achète la maison, c'est-à-dire avant 2010, parce qu'elle a fait sa reconversion en 2009. Donc déjà à partir de ce moment-là, l'idée était déjà née en fait, mais je savais pertinemment que je serais mis à contribution, donc ce qui ne me gênait pas du tout, parce que j'aime ça. Donc voilà, après... En dépit des choses, et au fur et à mesure que le temps est passé, ben, on en fait de plus en plus, et puis, voilà, on se pose des questions et on franchit le pas.
Alors justement, qu'est-ce qui est cultivé dans cette ferme ? Avant de parler de votre activité...
Donc nous aujourd'hui, sur l'activité maraîchage, donc tout ce qui est légumes de saison, tout est cultivé en agriculture biologique. Donc, tous légumes de saison, là on commence à être dans les légumes d'été qui commencent à arriver tout doucement. Et on fait surtout une activité de plants à cette époque-ci de l'année qui nous permet de commencer à travailler très tôt dans l'année, c'est-à-dire qu'on commence à faire les premiers semis début janvier. Donc, pour un maraîcher, ça commence à travailler très tôt en saison. Nous, ça a été notre choix pour justement pouvoir débuter l'activité vraiment très très tôt au niveau de l'année. Et ça nous permet aussi d'avoir une salariée toute l'année.
Vous avez une grande superficie ?
Alors nous aujourd'hui, l'activité maraîchage, c'est 1 hectare de plein champ approximativement. Et en termes de superficie de tunnel, on doit être dans les 1 400 m². C'est peut-être à peine assez encore, mais voilà, c'est déjà pas mal bel outil de travail qu'on a créé de nos mains, donc il n'y avait rien du tout au départ, donc ouais, c'est pas mal.
Vous avez décidé de favoriser justement l'agriculture biologique, ça c'était important pour vous ?
Très important, c'est venu pas au tout départ, pas la première année, mais c'est venu très très vite parce que c'était un moyen déjà premièrement de travailler de la manière dont on aime travailler, c'est-à-dire sans traitement, parce que même si au début de la première année on n'était pas en agriculture biologique, il n'y avait pas de traitement apporté. Mais c'était un moyen aussi de pouvoir pousser des portes de magasins avec lesquels on avait envie de travailler sur la place de Tours. Donc c'est venu très très vite.
Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de faire de l'élevage de poules pondeuses ? Parce que justement, donc vous avez rejoint l'exploitation, en tout cas, votre activité a été développée il n'y a pas très longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie donc, de faire...
Alors l'envie, elle est née un peu... Elle est née. Non, on ne va pas dire ça comme ça. On va dire que l'élevage, il y a toujours eu de l'élevage à la maison. C'est-à-dire on avait toujours nos propres poules, nos poulets de chair qu'on fait tous les ans, nos canards, nos oies, enfin bon, il y a tout. Et on en faisait quand même une quantité assez importante. Et moi, étant sur une autre activité, parce que je travaillais à l'extérieur, un jour, ça s'est mis à mal se passer. Et au bout d'un moment, je travaillais plus comme je pouvais aimer travailler, c'est-à-dire que je travaillais à l'encontre du bien-être de mes collaborateurs. Et donc j'en ai eu marre, et au bout d'un moment, vu que je n'allais pas dans le bon sens de la société pour laquelle je travaillais, j'ai décidé de les abandonner. Et donc, quand j'ai décidé de les abandonner, j'ai dit, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et donc, ma femme, elle me dit, tu veux faire quoi ? Je dis, travailler sur la ferme, quoi. D'accord ? Et elle me dit, tu veux faire quoi ? Je dis pas du maraîchage. Ok, tu veux faire quoi ? Bien, je dis, de l'élevage. Et donc, on est venu très très vite, la partie poule pondeuse, quoi. Je voulais pas faire du poulet de chair, parce que, voilà, ça m'intéresse pas spécialement, mais de la poule pondeuse, ça m'a vite attiré, on va dire.
Alors, en quoi consiste, justement, l'activité de poule pondeuse ? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors, aujourd'hui, moi, je n'élève pas mes poules pondeuses depuis le départ. Je ne les ai pas un jour, comme certains collègues. Moi, les poules arrivent, elles sont prêtes à pondre. C'est-à-dire qu'elles arrivent chez moi, elles ont 18 semaines. Entre 17 et 18 semaines pour respecter le cahier des charges bio. C'est très très strict. Et moi, je les garde en cycle de ponte pendant 1 an minimum. Ça peut aller jusqu'à 12 mois, 14 mois, mais à savoir qu'au-delà des 12 mois de cycle de ponte, la poule perd en productivité et à un moment donné, il n'y a même plus de productivité, c'est le néant. Chose qui se passe en ce moment sur un lot que je n'ai pas pu sortir à cause des contraintes grippe aviaire.
Et qu'est-ce que vous faites justement après ces poules, une fois qu'elles sont plus productives?
Alors, ces poules, un coup productives, peuvent rester productives pour du particulier. C'est-à-dire que moi, je les propose en poule de réforme vivante, pour le particulier qui va avoir deux poules d'ornement chez lui, trois poules, dix poules, enfin bon, peu importe. Autrement, une partie de ces poules sont abattues et sont transformées.
D'accord.
En l'occurrence, en rillettes.
Ok. Alors justement, quel type de poules est-ce que vous élevez? J'imagine qu'il y a peut-être des races.
Moi, j'ai deux races de poules sur l'exploitation. Ça, c'est un choix purement personnel parce que je ne voulais pas faire de la poule qu'on peut voir partout, de la poule que tout le monde s'imagine, marron, pâte blanche ou pâte jaune. Donc, je ne voulais pas faire que ça. Donc, j'ai un lot comme ça. Donc ça, c'est de la Beauvance, excusez-moi. Et moi, j'ai pris l'option de prendre une poule noire, Marance, qui certes pond un petit peu moins que l'autre, que la Beauvance, mais en revanche, elle est un petit peu plus costaud, un petit peu plus rustique, et puis bah, c'est une poule qui est plus facile à valoriser à la fin du cycle. C'est surtout ça qui est très important.
Parce qu'il y a des poules plus pondeuses que d'autres, du coup?
Ah oui, si on prend une Beauvance ou une Lomane, c'est des poules, entre guillemets, qu'on appelle Formule 1 dans le monde professionnel.
D'accord.
Ça, j'aime pas. Bah oui.
Combien est-ce que de poules vous avez
Alors moi aujourd'hui je suis un petit producteur, attention, hein, certes quand je vais vous annoncer le chiffre ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais moi j'ai 900 poules pondeuses, c'est 3 fois 300 poules, mais je suis un tout petit producteur. Moi j'ai un volume de production au max qui est de 4000-4500 œufs semaine.
D'accord.
J'ai des collègues, c'est ce qu'ils font, ils font même plus par jour.
D'accord.
Donc je suis vraiment un tout petit.
Alors, combien est-ce que ça coûte, par exemple, un cheptel de poule? J'imagine là aussi que ça dépend de...
Alors là, c'est très aléatoire. Plus vous allez sur de la poule racée, plus ça coûte cher. Grosso modo, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais ça vaut, à l'achat, une poule vaut entre 10 et 13 euros hors taxe. C'est déjà assez cher.
Alors justement, comment est-ce qu'elles sont élevées? De quelle manière elles sont élevées en plein air? De quelle manière est-ce que vous vous en occupez?
Alors, dans le contexte actuel, là, on va parler d'un sujet qui peut me fâcher. Normalement, oui, elles sont en plein air, bien sûr. Toutes les trappes sont ouvertes le matin, refermées le soir. Bon, il n'y a même pas besoin de les faire rentrer, elles rentrent toutes seules. Hein. Ça, c'est dans le contexte normal. Mais aujourd'hui, en fait, depuis fin octobre l'année dernière, eh bien, les pauvres bêtes sont renfermées H24. Elles ont juste la lumière par les trappes supérieures, la lumière du jour, mais voilà, c'est renfermé depuis plus de 6 mois de temps maintenant.
On va y revenir sur la grippe aviaire. On va parler en temps normal, la façon dont vous travaillez, sur la qualité de vie de ces poules, justement, alors, le respect de l'animal.
Tout à fait. Donc, moi, l'idée principale, voilà, c'est que les poules se sentent bien, aillent bien, si elles vont bien, elles me pondent des beaux œufs, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc je leur ai fait des parcours, on va dire, entre guillemets haut de gamme, où je leur ai installé beaucoup de graminées pour qu'elles puissent picorer en plus de leur alimentation que je leur donne. Graminées et surtout beaucoup de trèfle, parce que avec le trèfle, en fait, si vous voulez, j'arrive à leur apporter un petit peu plus de matière grasse au niveau du jaune d'œuf.
D'accord.
Ça, c'est très important, mais chose que je ne peux pas leur apporter en ce moment et que certains clients professionnels ont remarqué déjà depuis qu'elles sont renfermées, parce que voilà, y a plus ce complément alimentaire et donc bah, je perds en qualité. Et après, bah, ça, quand elles sont dehors, elles l'ont à profusion, à volonté, autant qu'elles en veulent, quoi. Et le fait en plus d'aller dehors, elles peuvent se gratter dans la terre, elles trouvent des compléments au niveau de la terre. Tout est à disposition, mais en ce moment, elles n'ont pas le droit d'y toucher.
Alors, comment se passe la ponte? Est-ce que c'est tous les jours?
Alors oui, c'est tous les jours. Un animal, quoi. Dès l'instant que vous êtes éleveur, ça reste du vivant. Donc bah, c'est matin et soir. C'est le matin, moi je vais aux poules entre 8h et 10h, leur donner à manger, voir si tout se passe bien, voir si les abreuvoirs sont pleins, s'il n'y a pas une poule morte, ce qui arrive de temps en temps, attention, ça fait partie aussi de l'élevage. Et donc le matin, je fais que de donner à manger et j'isole un petit peu les œufs pour pas que ça se salisse. Et le soir, j'y retourne en fin de journée. Bon là, plus les jours rallongent et plus j'y vais tard, bien sûr. Là, en fait, je ramasse les œufs entre 19h et 21h. Et ben, là, c'est la collecte de la journée et tous les jours, c'est la même chose.
Où est-ce que vous vendez vos œufs ensuite?
Alors,
à la ferme?
Les œufs sont vendus à la ferme parce qu'on a un magasin de vente directe tous les samedis matins. Et après, en plus de ça, moi, je fournis plusieurs biocoop sur le secteur, en l'occurrence à Amboise.
D'accord.
Biocoop, j'ai quelques épiceries fines, restauration collective et restauration grand public.
Alors, est-ce que vous arrivez à vous tirer un salaire? Est-ce que le fait de vendre des œufs, c'est rentable, entre guillemets, quoi?
Alors, aujourd'hui, on vient tout juste de finir une première année. Le bilan est plutôt positif. De là à pouvoir dire que je me tire un salaire complet, c'est encore compliqué à dire parce que pour l'instant, je ne produis pas mon alimentation. Mon alimentation est achetée par le biais d'une coopérative bio qui est en Bretagne. Donc, je suis encore tributaire des coûts de matières premières. Chose que, à terme, je vais maîtriser dans le sens où j'ai une partie céréale, production céréalière pour ma part. Et donc, le but ultime, c'est de pouvoir produire mes céréales et de les transformer et de les donner directement à mon bétail.
Est-ce que justement le fait de dépendre d'une fabrique ou en tout cas de quelqu'un qui vous vend l'alimentation pour vos poules, est-ce que ça a un impact aussi sur le prix? Parce que est-ce que le prix des œufs n'a pas un peu augmenté ces derniers temps?
Si, malheureusement, il a augmenté depuis le début de l'année et je pense que ça va pas aller en baissant, malheureusement, parce que au niveau de la matière première, c'est des cours mondiaux, des cours qui flambent comme tout ce qu'on peut voir en ce moment. Si aujourd'hui je produisais personnellement ma matière première, il est sûr et certain que oui, ça, il n'y aurait peut-être pas une augmentation aussi forte à faire que celle qui s'est passée, quoi. Et oui, on est tributaire de tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et si on veut parler en termes d'augmentation par rapport à ce qu'on a pu connaître et aujourd'hui, nous, au niveau de l'augmentation de tout ce qu'on a pu avoir depuis le 1er janvier, on a eu une augmentation à peu près de 15-18%. Et j'ai dû augmenter mes œufs de 10%. À peu près. Donc là, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je rogne un petit peu sur moi ce que je peux toucher, mais voilà, on essaye d'équilibrer différemment, quoi. C'est pas tout simple.
Quelles sont les contraintes, s'il y en a, d'être éleveur? Alors, vous parliez du salaire pour l'instant qui est compliqué à dégager. C'est une première année, c'est peut-être normal.
Oui, ça, c'est normal.
Après, le temps passé, du coup, c'est tous les jours, toute l'année. J'imagine que 300, les vacances, on
360...
oublie.
Alors non, on n'oublie pas parce que travailler, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir la tête de l'eau parce qu'autrement, vous ne travaillez pas comme ça des années. Donc là, après, ça demande un petit peu d'organisation. Heureusement, on a une salariée qui fait le remplacement quand on n'est pas là. Donc ça nous permet de partir un petit peu en vacances, je dis bien un petit peu. L'année dernière, on a dû partir 3 jours. Bon, cette année, on va partir peut-être un petit peu plus, mais oui, on arrive toujours à se dégager un petit peu de temps. Ça demande une organisation, mais c'est tout, ça se fait.
C'est un investissement quand même particulier, quoi, en termes de...
Le fait d'être éleveur ?
Ouais.
C'est pas un investissement, je dirais pas que c'est un investissement, mais c'est une implication.
Oui.
Donc oui, indirectement, ça reste un investissement personnel. Faut vouloir le faire. Si vous voulez pas le faire, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ce métier-là. Faut le faire avec un petit peu de conviction.
Justement, vous, qu'est-ce que vous avez l'impression de défendre à travers ce métier?
Alors déjà, je vais défendre une idée. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, faut y aller. C'est-à-dire que moi, je suis pas issu du milieu agricole. Je suis pas fils d'agriculteur. On n'avait rien. Et aujourd'hui, ma femme, pareil, pour moi, hein, je parle pour moi comme pour ma femme, et aujourd'hui, l'un comme l'autre, on est agriculteur, on a une exploitation, on a des terres en céréales, on a tout, il faut juste se battre, se donner les moyens, et puis je pense qu'à un moment donné, on y arrive, quoi.
Vous y avez cru à votre projet ?
Ah bah vous êtes obligé d'y croire, autrement c'est pas possible. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, si vous faites pas un métier que vous aimez, vous pouvez pas le faire bien. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Et puis dès l'instant que vous aimez ce que vous le faites bien. Et vous le faites aussi avec conviction et vous êtes porteur, vous allez convaincre les gens. Et si vous êtes même déjà convaincu, ça sera plus facile à convaincre les gens en face de vous.
Alors en ce moment, vous le disiez tout à l'heure, la grippe aviaire a frappé beaucoup d'éleveurs. Ça fait depuis donc octobre 2021.
Fin octobre 2021, ouais.
Que du coup, la grippe aviaire est arrivée. Est-ce que vous avez été touché aussi? Est-ce que...
Alors moi, j'ai pas été touché. Je touche du bois. Hein. J'ai pas de cas à la maison parce que si j'avais eu un cas à la maison, je vous parlerais plus de poules. Je vous parlerais au passé parce que vous en avez un cas chez vous, elle y tue tout le monde. Hein. Font pas de détails, quoi. En revanche, j'ai eu un cas très proche de la maison. Je me suis trouvé dans un périmètre de moins de 10 km d'un cas de grippe aviaire. Donc là, autant vous dire que c'est très compliqué à gérer, à anticiper, parce que là, c'est vous décidez plus de ce qui se passe chez vous. C'est-à-dire que moi, dans le sens où j'étais dans le périmètre, c'est la DDPP qui vous appelle, qui vous dit, vous faites partie du rayon des 10 km, donc là, vous n'avez plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Grosso modo, en fait, ils voulaient m'interdire de vendre... Quoi, au début, la première chose, c'était de m'interdire de vendre les œufs en direct à la maison. Donc je ne pouvais plus vendre mes œufs à notre marché tous les samedis matins.
Cédric, est-ce que tu peux préciser ce que c'est la DDPP?
Ah, la DDPP, pardon, excuse-moi Julie. Donc la Direction départementale de la protection des populations, donc c'est les services vétérinaires de l'État, ni plus ni moins. Et en fait, le premier coup de téléphone, ça a été pour me dire ça. Le deuxième coup de téléphone, donc c'était pour me dire qu'on n'avait plus le droit de les vendre. et ils ont voulu m'interdire de vendre aussi nos légumes sous prétexte que les clients qui viennent à la maison pouvaient nous ramener le virus via les pneus des voitures. Si, si, attention, c'est réel, hein, ça se transmet comme ça, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez à un moment donné rouler sur une fiente sur la route, ça se met sur votre pneu, et puis bah, partout où vous roulez, vous le semez, hein, malheureusement, c'est comme ça que ça se transmet. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit, attendez, j'ai dit, moi, si vous me supprimez la vente à la ferme, j'ai dit, vous m'enlevez mon salaire. Donc je dis, ça va pas être possible, donc j'ai réussi quand même à faire valoir que la cour est assez grande, tu sais comment c'est fait à la maison, Julie?
Oui.
Donc en fait, j'ai réussi à faire valoir que la cour est quand même assez grande, qu'entre la partie vente à la ferme et la partie centre de conditionnement, parce que moi je suis centre de conditionnement avec agrément sanitaire, j'ai à peu près une distance de 80 mètres entre les deux, donc en fait j'ai réussi à faire un aménagement dans la cour pour que les clients ne rentrent plus sur le parking prévu, ils restaient dans le petit chemin à la maison et ils venaient faire leurs courses quand même, mais il a fallu que je me batte, que apporter une solution, parce qu'autrement bah, j'étais fermé jusque samedi dernier, ça a été levé en fin de semaine.
Alors ça fait partie d'une grosse contrainte quand même, et vous parliez
oui.
Tout à l'heure aussi du fait que vos poules ne sont plus en plein air pour le moment.
Oui, alors ça en revanche pour l'instant c'est toujours pas levé, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que là on avance dans la saison, il fait plus en plus chaud, les poules comme tout animal, à un moment donné, il y a des fientes, ils font leurs besoins, et à force de vivre toujours au même endroit, bah, cette hauteur de fumier dans les bâtiments monte, et donc à un moment donné, il va falloir les vider, donc il va falloir les mettre dehors. Mais pour l'instant, c'est pas au goût du jour, c'est pas à l'ordre du jour, et on attend, mais on va pas pouvoir attendre comme ça indéfiniment.
Et est-ce qu'il n'y a pas un stress aussi de l'animal du fait qu'il soit enfermé? Alors, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur la ponte?
Alors, sur la ponte, proprement dit, pas trop, ça va encore. Après, il y a d'autres conséquences sur le comportement des animaux. Alors après, ça dépend des lots, hein. Il y a des lots qui se comportent très très bien, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a d'autres lots, en l'occurrence le lot qui, moi, est en fin de ponte, là, qui devrait être sorti. Ça, c'est un lot, en fait, qui a connu 6 mois de liberté dehors, puis c'était des poules qui étaient très curieuses. En fait, du jour au lendemain, vous les renfermez. Donc c'est comme un être humain, quand il y a eu le premier confinement, il y a des gens qui ont un peu pété les plombs, excusez-moi de dire ça. Ben elles, c'est pareil. Ce lot-là, ils ont hyper mal réagi. Pour résumer, en fait, à un moment donné, elles se sont mises à se cannibaliser les unes entre elles. Et en fait, aujourd'hui, sur ce lot-là, j'ai à peu près 50% de pertes.
Ah ouais, ok.
Ah oui, non, mais là, c'est... Ouais, ça commence à faire mal. Donc, ben, voilà, c'est encore un petit peu de pertes en plus. Faut espérer que ça dure pas comme ça encore des années, quoi.
Est-ce que il y a un système de vaccination aussi pour les poules, et est-ce que après c'est aussi, j'imagine, un choix aussi ou pas?
Aujourd'hui, le vaccin, j'en ai encore parlé il y a une semaine, jour pour jour, avec Madame Lopez de la DDPP, parce qu'elle est venue faire des prélèvements à la maison justement pour la levée sanitaire. C'est en pourparlers. Visiblement, il y aurait des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore actives, quoi, pas en France pour l'instant. Mais vu le contexte et vu que les épisodes de grippe aviaire reviennent chaque année et durent de plus en plus longtemps, à un moment donné, je pense qu'on va venir un vaccin dès la naissance pour les animaux pour pouvoir pallier à ça, quoi, parce que ça va pas être possible.
Là, justement, où est-ce qu'on en est à peu près de la grippe aviaire? Si depuis le mois d'octobre vous êtes touché, est-ce que...
Alors, depuis le mois d'octobre, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'au niveau, au niveau de la France, dès l'instant qu'il y a un cas de grippe aviaire sur le territoire national, tous les éleveurs ont la même punition, c'est-à-dire c'est claustration. Pour que cette punition entre guillemets soit levée, il faut être un mois sans aucun cas de grippe aviaire sur le territoire national. Donc autant vous dire que là, il y en a encore, quoi, cette semaine, j'ai pas écouté les informations aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'ai écouté les informations, il y avait encore eu un cas dans l'Aveyron, il y avait encore un cas en Vendée, ça explose de partout, donc là, je vois pas trop comment ça peut se finir, quoi. Mais bon, on sait pas trop ce qui se passe, parce que on dit toujours que la grippe aviaire, elle est apportée par les migrateurs. Donc aujourd'hui, les migrateurs, à l'époque à laquelle on est, les migrateurs sont repartis, mais la grippe aviaire est toujours là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a notre faune sédentaire, notre faune sauvage sédentaire qui est touchée, qui est porteuse, et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que bah, nous, la faune sédentaire, elle est toujours là, nos canards colverts sont ici, nos hérons, tous nos animaux d'eau, quoi.
Moi, je voulais demander en quoi c'est si dangereux, cette grippe, pourquoi donc les animaux sont obligés d'être enfermés, et pourquoi ils peuvent pas être en plein air, et dans ce cas, est-ce que les particuliers observent aussi cet enfermement des animaux?
Alors, les particuliers, aujourd'hui, entre guillemets, ne respectent pas ces contraintes que nous, on a en tant que professionnels, parce que eux, les élevages qu'ils ont tous, nous sont, pour dire, pas déclarés, ou très peu. Donc voilà, ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Après, le risque par rapport à ta question, j'ai eu, entre guillemets, un morceau de réponse de la part de la DDPP la semaine dernière, c'est que en fait, ils nous imposent, pour les poules pondeuses, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui élève des poulets de chair, tu as le droit de les mettre dehors. c'est pointu, on va dire. Et en fait, la seule explication qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, on est obligé de laisser les poules pondeuses renfermées en bâtiment. Ça évite une trop grosse concentration d'animaux sur une même zone. Et en fait, ils réagissent par rapport à ça sur les départements où il y a beaucoup d'élevage. Bon, nous, sur le département, on n'a pas grand-chose. Mais en fait, la règle, elle est pour tout le monde pareil au niveau national. Je trouve ça un petit peu léger en termes de réponse quand même. Mais bon, c'est ce qu'ils nous disent.
Mais quel est le risque, en fait, de la grippe aviaire pour l'homme? Si quelqu'un mange un animal contaminé, quels sont les...
Il n'y a pas de risque. La grippe aviaire ne se transmet pas à l'homme. Ça, moi, c'est ce que j'ai appris, voilà. Après, le risque sur un troupeau, si la grippe aviaire, t'as un animal qui est tout, quoi, une bête qui est touchée sur ton troupeau, ça peut te décimer un élevage comme moi, quand on est 300, en 3 jours.
D'accord, ok.
En 3 jours, tout le monde peut être par terre.
D'accord, ok, oui.
Ça va très, très, très vite.
D'accord, oui, donc c'est grave, quoi. C'est une maladie.
C'est une pathologie qui touche l'animal et ça l'emporte en. Là, des cas de grippe aviaire qu'il y a eu, nous, dans le secteur, entre le moment où tu vois ton animal qui commence à aller moins bien et le moment où il tombe par terre, il est mort, il peut se passer entre 6 et 7 heures maximum.
Ah oui, d'accord, ok.
Ça va très, très vite.
Ok, ouais.
Moins de 10 heures, ton animal est mort. Donc oui, oui, c'est violent. Cette année, c'est visiblement, le H5N1 de cette année était très, très violent.
Mm-hmm.
Je ne souhaite pas le voir.
Non, mais j'imagine, on n'espère pas non plus qu'il va venir toucher votre ferme. En tout cas, les gens qui seraient peut-être intéressés peuvent venir chez vous pour acheter des œufs encore, hein, c'est possible.
Bien sûr.
Peut-être qu'on peut rappeler l'adresse ou en tout cas les horaires, en tout cas...
Alors nous, l'activité, le GAEC, la ferme dans le panier, c'est donc sur la commune de Lusier, à côté de Bléré, au 17 Le Bois Joubert, et donc notre magasin est ouvert tous les samedis matin, toute l'année, de 9h à 12h30.
Et donc, on peut acheter des œufs et des légumes.
Des œufs, des légumes et en ce moment, des plants.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup.
De rien. Bonne fin de journée.
Merci. On continue cette émission avec l'agenda de Julie pour Impact 37.
Alors, à l'agenda de ce mois de mai, je propose plusieurs événements. Donc, une date, donc le jeudi 12 mai, c'est l'Union des ressources génétiques du Centre qui propose à la Villa Rabelais à Tours une première dégustation sur les cépages rares et locaux avec François Bonhomme de l'épicerie De Jo. Donc, c'est une série de 3 dégustations. Il y en aura une en juin et une en juillet, à laquelle je participe également. Donc, dégustation des cépages rares et locaux. Le dimanche 15 mai, il y a le marché bio de l'AMAP de la Riche en bio, donc dans le parc du Prieuré Saint-Côme, à la Riche. Cédric me fait un petit signe, tu y seras également. Et enfin, c'est en effet la période de plantation des plants, donc non seulement chez Cédric et Paola à Lusier, et donc pour la pépinière Les Jardins de la Levée, c'est à la Chapelle Honneau, Cédric Godbert. C'est ouvert depuis le 16 avril et jusqu'au 5 juin pour des plants de tomates, plants potagers annuels, des légumes vivaces et des aromatiques.
Merci Julie. Merci également Cédric Sassier, éleveur de poules à la ferme, La Ferme dans le Panier, d'être venu donc nous parler de son activité. Merci également à Julie Joyer.
Merci.
On se retrouve le mois prochain.
Et oui, au mois prochain.
Pour une nouvelle émission. Et merci également à David Marion qui était à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr.